Chers amis, chers compagnons, chers frères et sœurs en Christ, ici nous sommes venus pour célébrer la grâce de Dieu qui est la source inépuisable d'amour et de bonté. Nous sommes venus reconnaissants pour cette grâce que nous recevons sans mérite de notre part. Cette grâce nous sauve, nous pardonne et nous offre une vie pleine de sens, pleine d'espérance. Que cette grâce devienne notre réconfort, particulièrement en ces temps difficiles, que cette grâce nous permette de sentir et de pratiquer l'harmonie, et nous, puissions-nous en devenir des témoins solides en toutes circonstances. Amen. Je vous invite à vous relever pour que nous puissions louer Dieu et que nous le fassions ensemble. Et je vous propose de le faire non pas à très haute voix, mais à basse voix, de lire le texte qui se trouve sur votre feuille de culte, qui est un texte composé par Augustin, Saint Augustin. Et je vous l'invite à le dire autant que vous choisissez, mais pas très fort, à le dire ensemble. Qu'est-ce que j'aime quand je t'aime ? Ce n'est pas la beauté d'un corps, ni le charme d'un temps, ni l'éclat de la lumière, amicale à mes yeux d'ici-bas, ni les douces mélodies des cantilènes de tout mode, ni la suave odeur des fleurs, des parfums, des aromates, ni la manne ou le miel, ni les membres accueillants aux étreintes de la chair, ce n'est pas cela que j'aime quand j'aime mon Dieu. Et pourtant, j'aime certaines lumières et certaines voix, certains parfums et certains aliments et certaines étreintes quand j'aime mon Dieu. Lumière, voix, parfum, aliment, étreinte, de l'homme intérieur qui est en moi, où brille pour mon âme ce que l'espace ne saisit pas, où résonne ce que le temps ne prend pas, où s'exhale un parfum que le vent ne disperse pas, où se noue une étreinte que la satiété ne desserre pas. C'est cela que j'aime quand j'aime mon Dieu. Amen. Eh bien, nous allons chanter toutes les strophes du psaume 101 que vous trouvez, page 119, sur votre recueil bleu. Voici maintenant la prière de conversion d'après Ambroise de Milan. Viens, Seigneur, cherche ton serviteur. Viens, bon berger, cherche la brebis épuisée. Laisse les autres et cherche la seule qui était perdue. Viens vers moi, que guette l'incursion des loups. Cherche-moi, trouve-moi, accueille-moi, porte-moi. Tu peux trouver celui que tu cherches, accueille celui que tu trouves, place sur tes épaules celui que tu as accueilli. Viens. Il y aura le salut sur la terre et la joie au ciel. Amen. Tout en restant assis, nous prenons maintenant le chant 4305, page 640, et nous y chantons maintenant la strophe numéro 1. 4305, strophe 1. Dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 2, nous pouvons entendre cette annonce de la grâce de Dieu. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ.
Nous écoutons l'expression de la volonté de Dieu. Dans le livre des Actes, chapitre 17, verset 30. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude. Amen. Et nous écoutons la prière d'illumination de Éphrem de Lisib. Qui donc est capable de comprendre toute la richesse d'une seule de tes paroles, Seigneur? Ce que nous en comprenons est bien moindre que ce que nous en laissons, comme des gens assoiffés qui boivent à une source. Les perspectives de ta parole sont nombreuses, comme sont nombreuses les orientations de ce qu'il étudie. Le Seigneur a coloré sa parole de multiples beautés, pour que chacun de ceux qui la scrutent puisse contempler ce qu'il aime. Et dans sa parole, il a caché tous les trésors, pour que chacun de nous trouve une richesse dans ce qu'il médite. André Dumas a écrit « Ta parole est comme du pain. Casse sa croûte pour que nous puissions goûter sa mie. »
Nous lisons dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 5, du verset 1er au verset 11. Comme la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu et qu'il se tenait près du lac de Génézareth, il vit au bord du lac deux bateaux d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'un de ces bateaux qui était à Simon, et il lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit, et du bateau il instruisait les foules. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons, leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs associés qui étaient dans l'autre bateau de venir les aider. Ceux-ci vinrent et remplirent les deux bateaux au point qu'ils s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et il dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi. » Je suis un homme pécheur. Car l'effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les compagnons de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais ce sont des êtres humains que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les bateaux à terre, laissèrent tout et le suivirent.
Le texte que vous avez sous les yeux, là, et qui a été lu tout à l'heure, eh bien, ce texte-là, sans nul doute, a été un guide ou a été une instruction adressée aux premières églises des croyants au Christ, des églises qui florissaient, du verbe « florir », des églises qui florissaient en milieu hellénistique, c'est-à-dire des gens qui parlaient grec, des églises qui naissaient, qui florissaient quelques 50 ans après le passage de Jésus, des églises qui accueillaient tout le monde. Des églises donc qui accueillaient tout le monde, des juifs d'abord et ensuite majoritairement des non-juifs, des églises toutes nouvelles qui avaient besoin de s'instruire, quant à leur sens au monde, ce guide, cette instruction que vous pouvez trouver dans le texte du jour, serait-il encore pertinent pour nos églises d'aujourd'hui? Eh bien, c'est ce que nous allons approfondir. Et pour ce faire, nous allons, dans une première partie, détailler quelques aspects narratifs de notre récit du jour. Et c'est toujours amusant avec Luc, car cet auteur aime bien jouer avec l'interprète de son œuvre en disséminant un peu partout des messages subliminaux. Et nous allons, dans une seconde partie de la prédication, nous attarder particulièrement sur un aspect. Alors, l'introduction de ce récit est assez significative, et je vous la relis, verset 1, « Comme la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. » Eh bien déjà, c'est la seule fois dans les quatre évangiles où il est directement affirmé, et par le narrateur lui-même, que ce qu'on recherchait en se pressant autour de Jésus qui parlait, c'était la parole de Dieu. C'est ici une pleine affirmation théologique. Alors certes, aujourd'hui, cela peut ne pas nous étonner, et je suspecte que cela ne vous a pas étonné. Mais au début de la construction du mouvement des croyants au Christ, c'était important d'affirmer « Rejoignez les assemblées fondées sur Jésus-Christ, car la parole que ces assemblées diffusent, c'est la parole de Dieu. Pas la parole des dieux, pas la parole d'un dieu, pas la parole de l'ancienne loi, mais la parole de Dieu. Vous savez pourquoi vous êtes venus écouter ou lire mon évangile, suggère Luc, vous faites partie de cette foule qui se presse pour entendre la parole de Dieu émise par celui dont je raconte la vie. » Signé Luc. Comme tous les récits des évangiles, celui-ci, en effet, s'adresse tout autant aux premières assemblées pour qu'elles puissent y trouver de la norme pour prospérer, et s'adresse aussi singulièrement aux personnes de ces dites assemblées, pour qu'elles y trouvent des raisons de persévérer dans leur foi récente. Mais ce récit, ce guide, s'adresse aussi à des personnes singulières, en dehors même de toute assemblée constituée, pour que ces personnes puissent s'ouvrir à la conversion. Ce sont des récits qui circulent par écrit, oralement, partout où c'est possible. Et dans la suite de cette prédication, je vais faire miroiter des aspects de ce riche récit et le faire en vis-à-vis des différentes sortes de destinataires potentiels, aucune sorte n'excluant l'autre. Guide pour l'Église naissante, catéchisme pour des personnes membres de ces églises, et aussi communication militante pour ceux et celles qui pourraient se convertir. Comme la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Alors, cela dit, cette introduction pourrait être perçue comme une présentation un peu outrancière, voire dangereuse. Pour comprendre ce que je viens juste de dire, imaginez que je pose sur notre site internet ou sur nos réseaux sociaux, le pavé suivant. Rejoignez l'église de Port-Royal, quartier latin, car chaque dimanche, c'est la parole de Dieu qui s'y exprime. Certains d'entre vous ne seraient peut-être pas d'accord. Non pas qu'elle puisse s'y exprimer, mais de le dire aussi crânement. Alors effectivement, s'il en était resté là, ça aurait été probablement assez manipulateur. Mais c'est tout l'art de l'auteur de ne pas en rester là. Quand on est un habitué moderne des évangiles, on peut penser que Luc, comme ses confrères écrivains, va raconter les premiers appels des disciples. Alors oui, il fait ça, mais il va distiller d'autres messages. Et je poursuis la lecture au verset 2 que vous avez encore sous les yeux, évidemment. Il vit au bord du lac deux bateaux d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Donc, ce qui veut dire que parmi tous ces gens, cette foule qui se presse, il y en avait qui, visiblement, ne faisaient pas partie de la foule, étaient là avant et n'étaient pas là pour entendre la parole de Dieu, des qui ne s'agglutinaient pas autour de Jésus. Pour ça, qui peut-être, j'extrapole, ne voyaient pas d'un bon œil toute cette foule massée sur leur lieu de travail quand même. Des travailleurs de la pêche, des locaux, qui étaient descendus de leur barque pour aller laver leurs filets, dont Simon, futur disciple. Deuxième message subliminal de Luc, la parole de Dieu, si elle est certes destinée à ceux et celles qui se pressent pour aller la recevoir, elle va aller aussi chercher d'autres gens. Des gens d'abord, de prime abord, indifférents, des gens préoccupés par leurs tâches quotidiennes, comme ces pêcheurs, comme Simon, des gens en marge de l'effervescence provoquée par Jésus, comme toi aussi, lecteur, auditeur, qui parle le grec et qui a rencontré ce récit par hasard dans une des cités de l'Empire romain et qui va s'identifier à cet obscur pêcheur galiléen que tu ne connais ni d'Ève ni d'Adam, pas plus que tu connais l'immense lac où il pêche. Mais peut-être, autour de toi, quelqu'un va néanmoins t'informer que son nom en hébreu, que tu ne parles pas, bien sûr, que tu ne connais pas, que son nom signifie « écoute ». Écoute. Mais c'est aussi un message subliminal aux responsables des premières églises des croyants au Christ, ceux qui voyaient leurs églises se gonfler de gens venus de tout horizon. Le message, c'est « restez vigilants ». Continuez à regarder à l'extérieur de votre assemblée. Certes, les gens qui sont là avec vous sont le signe de la joie qu'il y a de ressentir le salut, mais surtout, vous qui êtes aux prémices de quelque chose d'énorme, ne commencez pas à considérer votre église comme un enclos défini par un périmètre particulier. Ne commencez pas à voir votre église comme l'espace unique de la parole de Dieu. Votre église est un mouvement, pas une institution, et ne recommencez pas l'erreur de vos ancêtres. À côté de votre assemblée, regardez, il y a des embarcations laissées vides, puisque les gens qui les occupaient en sont descendus pour faire leur travail quotidien. Ces embarcations laissées vides, est-ce qu'elles deviennent, dans ce texte, des symboles, selon Luc, d'institutions périmées, par exemple, des sanctuaires ou des temples adressés à des dieux divers, laissés à l'abandon? Choisissez alors ces emplacements laissés vides pour aller proclamer la parole de Dieu. C'est peut-être à partir de ces emplacements vides que vous parlerez encore mieux à d'autres gens qui ne sont pas directement magnétisés par votre croissance et ferveur fulgurante. Des gens qui peut-être, à la marge, commence à s'agacer de vous. Luc, qu'on a souvent imaginé comme un disciple de Paul, l'apôtre, fait ici peut-être résonner le même instinct universaliste que celui de Paul, en référence à la citation de Paul qui disait « Je me suis fait faible avec les faibles afin de gagner les faibles et surtout je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » Première lettre aux Corinthiens. Verset 3. Il monta dans l'un de ses bateaux qui était à Simon et il lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit, c'était la position du prédicateur, de s'asseoir. On a inversé les rôles, bizarre. Il s'assit et du bateau, il instruisait les foules. Alors, à partir du verset 4, les foules mystérieusement disparaissent. Ou du moins, le récit s'éloigne d'elle. Le récit s'éloigne d'elle puisque le récit s'embarque ailleurs. En fait, ces foules, dans la narration, n'avaient aucune importance. Ce que leur avait dit Jésus, nous n'en savons rien. Luc, de façon subliminale, déjà nous déplace. Et nous déplace vers quoi ? On va le voir. Si nous n'avons pas entendu ce que Jésus disait aux foules, en revanche, on va entendre ce que Jésus va dire à Simon, écoute, qui devient donc le symbole du destinataire réel du texte. Un destinataire collectif ou individuel, déjà inclus ou encore dans la marge, qu'importe. Dès ce moment-là du récit commence véritablement l'instruction. Chères assemblées des premiers croyants au Christ, vous vous demandez comment annoncer l'Évangile ? La communication par slogan vous laisse-t-elle un sentiment légèrement amer ? Vous commencez à perdre le sens de vos propres paroles ? Continuez à écouter cette histoire que je vous raconte. Il dit à Simon, même pas encore disciple, hein, mais déjà embarqué, il dit à Simon, « Avance en eau profonde. » Littéralement, mot à mot, c'est « va vers le profond ». Voilà où Luc embarque son lecteur. Ici, le message presque plus subliminal est « si tu veux véritablement annoncer l'Évangile et pas simplement agréger des gens euphorisés par tes sirènes ou t'agréger avec eux, va vers le profond ». Alors, c'est quoi le profond ? C'est déjà te rendre compte que le monde n'est pas simplement ton habituelle représentation de celui-ci, en 2D, en deux dimensions, car même avec des effets de relief, même avec des lunettes rouges et vertes, à partir du moment où tu contemples ce monde sur cet écran intérieur sur lequel tu le projettes, tu renonces à voir ces autres dimensions, le profond. Ce n'est pas simplement une flèche qui tend vers le bas ou une illusion de perspective élaborée par un bon graphiste ou un bon communicant. Avancer vers le profond, c'est d'abord avoir le courage d'y aller. Le courage d'accepter que ce qui t'entoure et que tu vois de tes yeux n'est pas la seule façon de voir les choses. Dieu t'a créé limité, mais toi, hélas, tu crois que tu vois comme Dieu. Oublie, avance, découvre, par exemple, ô combien l'humanité et la création sont beaucoup plus complexes que tu te le figurais. Oublie, avance et découvre qu'il y a un au-delà des filets dans lesquels tu étais pris quotidiennement, parce que c'est ton travail et que tu dois le faire quotidiennement dans le périmètre qui t'a été imparti, mais dont tu as fini par penser que c'était le monde entier. Simon, tout le monde, va vers le profond. C'est de la métaphore, d'accord, mais c'est aussi le trajet pour voir ton frère ou ta sœur humaine, les voir bien plus intéressants finalement, ou aimables, que ton a priori te l'avait initialement suggéré. Plus intéressant, aimable, que ce que cette même personne suggère d'elle-même en permanence, car elle a peut-être trop peur de faire vaciller son identité sociale acquise après beaucoup d'efforts. Va vers le profond, c'est aussi moque-toi de toi. Tu n'es pas l'alpha ni l'oméga. Ce n'est pas parce que tu es le seul à voir le monde tel que tu le vois que tu vois le monde tel qu'il est. Va vers le profond et renonce un peu à ta sécurité côtière. Va vers le profond, c'est aussi commencer à voir ces fils invisibles qui te manipulent. Et parmi ces fils, enlève ce que tu peux enlever. Tu ne l'avais pas encore fait puisque tu n'avais pas encore prêté attention à la parole de Dieu qui s'est invitée sur ta barque, la parole qui allait te pousser à avancer vers le profond. Verset 6. L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons, leurs filets se déchiraient. Tu vois, c'est incroyable ce qui se passe quand tu te décales un peu. Église, en allant vers le profond, tu touches vraiment les gens à qui tu t'adresses. Prédicateur du nouvel évangile, en allant vers le profond, tu comprends ce que toi-même tu profères. Futur disciple, en allant vers le profond, tu rencontres Dieu qui y est. Aller vers le profond, c'est aller vers l'intimité du monde, c'est aller dans sa nudité originelle, avant que tout cet imaginaire le rhabille. Verset 7. Ils firent signe à leurs associés qui étaient dans l'autre bateau de venir les aider. Chères premières églises des croyants au Christ, est-ce qu'il vous faut encore un rappel pour que vous puissiez cesser de vous réjouir dans votre autosuffisance? Il y a d'autres barques que la vôtre. Il y a en dehors de votre périmètre d'autres barques qui peuvent être solidaires avec vous pour annoncer l'Évangile. D'autres barques, d'autres personnes que vous n'aviez pas vues. J'espère vous avoir fait ressentir comment ce texte, cette instruction, ce guide fonctionne comme une allégorie de la mission chrétienne. La parole de Dieu ne s'adresse en fait pas aux foules, mais d'abord à celui ou celle qui n'est en rien demandé et tout de même appelé à faire cette expérience d'aller vers le profond, comme lorsqu'il avait été plongé ou sera plongé dans les eaux profondes du baptême. Verset 9. Car l'effroi l'avait saisi. Cette expérience peut susciter l'effroi. Mais c'est la peur d'un nouveau monde. Un monde qui est préférable à la superficialité des jours que l'on mène avec la croyance fausse que notre existence est infinie alors qu'elle ne l'est pas. Monter dans la barque, pêcher, descendre de la barque, réparer les filets, laver les filets, remonter dans la barque, ne rien prendre, redescendre de la barque, remonter dans la barque. L'effroi ou la stupeur. Mais cette expérience, on l'a vu, n'est pas celle d'une transe, elle est aussi une expérience d'entraide, car à ce moment-là apparaissent Jacques et Jean. Ne t'inquiète pas, tu ne vas pas être seul dans le service dans lequel tu t'engages. Enfin, versets 10 et 11, Jésus dit à Simon, écoute, Jésus dit à Simon, n'aie pas peur. Désormais, ce sont des êtres humains que tu prendras. Alors, ils ramenèrent les bateaux à terre, laissèrent tout et le suivirent. Considérer des humains comme des poissons qu'on pêche, et si on laisse la métaphore se filer, qui sont ramenés sur la berge et qui vont mourir étouffés avant de passer sur le grill. Alors oui, évidemment, cette métaphore n'est pas la meilleure façon de décrire l'évangélisation. Mais justement, pour éviter ça, il y a l'injonction centrale de ce récit, que je suppose vous avez bien entendu, d'avancer vers le profond. Comme ça, l'Évangile ne va pas devenir, en tout cas par notre bouche, ce qu'il est souvent devenu par ailleurs, que j'ai appelé par ailleurs un torrent de boue maléfique, quand il est détourné ou falsifié. Ces êtres humains revenus du profond ne seront pas les idiots utiles de tel ou tel amuseur des foules. Ils seront les militants et les militantes du salut de Dieu pour le monde qui en a besoin. Comme toi, Simon, écoute. Comme toi, Jacques, comme toi, Jean, comme toi, lecteur, lectrice, auditeur, auditrice de l'Évangile selon Luc, comme toi, une des premières églises des croyants au Christ, et ses sœurs, églises disséminées dans tout l'Empire, comme toi, église de 2025, comme nous. Amen. La confession de foi, nous allons la faire de façon antiphonée. Je vous invite à vous relever. Tout est indiqué. Nous affirmons de manière consciente que nous ne cherchons pas notre paix intérieure dans la certitude d'une confession de foi, mais dans la joie de ce que nous recevons, que nous ne cherchons pas le but de notre vie dans une attitude d'indifférence et d'avidité, mais dans la relation attentive avec tout ce qui vit. Que notre vie n'est pas accomplie par notre réussite humaine et nos possessions par ce qui est infiniment plus grand que nous. Conduits par cette prise de conscience, nous croyons en l'Esprit de Dieu qui transcende tout ce qui divise les peuples, les ouvre à ce qui est saint et bon. Il agit dans le chant et dans le silence, dans la prière et dans le travail, afin qu'ils adorent Dieu et vivent de lui. Nous croyons en Jésus, homme animé par l'Esprit divin, visage de Dieu. Son regard nous déstabilise. Il a aimé l'humanité. Il a été crucifié, mais il est vivant, par-delà sa mort et notre mort. Il est notre exemple ultime de sagesse et de courage. Par lui, l'amour éternel de Dieu est proche de nous. Il montre le chemin de la liberté et de la justice et nous ouvre à un avenir de paix. Nous croyons que, bien que faibles et faillibles, nous sommes appelés à être l'Église connectée au Christ et à tous les croyants, signe d'espérance. Nous croyons en l'avenir de Dieu et du monde, à une patience divine qui nous donne le temps de vivre, de mourir et de revivre, en un royaume qui est et qui vient, Dieu éternel, tout en tous, à Dieu soit gloire et honneur, pour le temps et l'éternité. offrandes qui viennent soient bénies et que l'Évangile soit annoncé.
Aujourd'hui et à bientôt, je l'espère.